France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni et Olivier Dehay. Voici la cinquième et dernière émission de notre série consacrée à l'orchestre de Cleveland sous le mandat de Georges Selle, décédé il y a 50 ans, le 30 juillet 1970. Dernière émission consacrée aux toutes dernières années de cette collaboration exceptionnelle avec un programme qui nous permettra d'entendre des œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, Berlioz, Brahms, mais aussi Mahler, Prokofiev. Et pour commencer, Zoltán Kodály dans l'intermezzo de la suite pour orchestre Harry János de ce compositeur hongrois, une œuvre qui contient une partie de cymbalum particulièrement mise en valeur dans cette prise de son de 1969.
Thank you.
c'est Tony Kovesch-Steiner qui était la cymbaliste dans cet enregistrement du 10-11 janvier 1969, l'intermezzo de Harry Janosch de Zoltán Kodály avec l'orchestre de Cleveland dirigé par George Sell. Tony Kovesch-Steiner était une musicienne née aux États-Unis dans une famille hongroise. Son grand-père était le poète Sándor Erdődy. Et un site internet, tonykovesch-steinercymbalom.com, nous rappelle la grande renommée de cette interprète à travers des photos où elle pose aux côtés de Leonard Bernstein, d'Igor Stravinsky, d'Aaron Copland, de Jay Normandy ou encore de Zoltán Kodály lui-même. Alors George Sell est né à Budapest en 1897 et il a dû probablement échanger quelques mots en hongrois avec Tony Kovesch-Steiner au cours de cette session d'enregistrement de Harry Janosch. Harry Janosch, eh bien voilà l'histoire d'un fanfaron hongrois, une sorte de Tartarin de Tarascon magyar, vivant à l'époque de Napoléon Ier et qui prétend avoir mis en pièces des armées à lui tout seul, d'avoir capturé l'empereur en personne avant de séduire l'impératrice Joséphine, rien que cela. C'est une comédie lyrique, ce Harry Janosch, qui avait été créé à Budapest en 1926. Eh bien, c'est une œuvre dont la suite orchestrale a été enregistrée par ces mêmes musiciens en même temps que Harry Janosch, que nous allons écouter maintenant. Il s'agit du lieutenant Kijé de Prokofiev. Encore un militaire aux exploits imaginaires, c'est même un militaire imaginaire tout court que ce lieutenant Kijé, un homme qui n'existe pas, inventé de toutes pièces par l'administration tsariste pour couvrir une erreur d'écriture. La loufoquerie administrative est poussée jusqu'à l'absurde dans cette nouvelle de Yuri Tinianov, lieutenant Kijé, qui en 1933 a inspiré un film dont Prokofiev a écrit la musique. Un gratte-papier de l'administration militaire oublie une syllabe dans la transcription d'un ordre, ce qui fait apparaître le nom d'un officier, Podporuchik Kijé, le lieutenant Kijé. Alors plutôt que de reconnaître son erreur et de subir une sanction, le dit gratte-papier va laisser vivre ce lieutenant fictif. Le document est présenté à l'empereur qui demande qui est ce lieutenant Kijé. Alors toute l'administration, pour se couvrir, va lui inventer une biographie si héroïque que cet homme qui n'existe pas va même recevoir des funérailles nationales. L'orchestre de Cleveland était dirigé par George Sell dans cet extrait du Lieutenant Quijé de Sergueï Prokofiev. Et nous avons mis sur notre site un lien pour regarder le film de 1933 en entier avec des sous-titres français et la musique de Prokofiev dans son habit originel. Alors voilà un enregistrement réalisé en 1969 au QG de l'orchestre de Cleveland, au Severance Hall, pour la firme Columbia. Mais il existe aussi des enregistrements des concerts de l'orchestre dans des parutions plus ou moins pirates, avec une prise de son plus ou moins satisfaisante. Mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire entendre la voix de la grande contralto canadienne Maureen Forrester, qui se produisait avec ses musiciens en 1967 lors d'une tournée européenne dans Le Chant de la Terre de Gustav Mahler.
Oh.
Berlin, le 21 avril 1967, l'orchestre de Cleveland, dirigé par George Sell, interprétait Das Lied von der Erde, le chant de la Terre, de Gustav Mahler sur des poèmes chinois, adaptés en allemand par Hans Bethge, dont ce von der Schönheit, de la beauté, chanté par Maureen Forrester. Dans cette captation, les parties masculines étant interprétées par le ténor Richard Lewis.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors hier, je vous avais proposé d'entendre le pianiste Georges Sell dans une sonate pour violon et piano de Mozart, ce qui nous rappelait que l'adolescent Georges Sell s'était d'abord fait connaître comme pianiste, ayant eu comme professeur Richard Robert, un pianiste et compositeur viennois qui fut l'élève de Bruckner, qui fut l'ami de Brahms et qui fut le condisciple de Gustav Mahler au Conservatoire de Vienne. Cela donne une idée de l'environnement musical de Georges Sell, qui suivait donc les cours de ce Richard Robert, dont les autres élèves en piano se sont appelés Clara Askill, Alfred Rosé ou encore Rudolf Serkin. J'imagine que lorsque Georges Sell rencontrait Rudolf Serkin, il devait évoquer leur maître commun, Richard Robert. Les voici côte à côte, Serkin et Sell, dans le final du second concerto pour piano de Brahms, toujours avec l'orchestre du Cleveland.
Thank you.
Mercredi dernier, nous entendions le pianiste Léon Fleischer à Cleveland en 1962 dans le deuxième mouvement de ce second concerto pour piano de Brahms. Et bien, quatre ans plus tard, en 1966, c'est Rudolf Serkin qui jouait en soliste ce même concerto numéro 2 en si bémol majeur opus 83 de Brahms, dont nous écoutions sur France Musique le final, Allegretto Grazioso, toujours avec le Cleveland Orchestra, dirigé par George Sell. Si Fritz Reiner a fait de Chicago une machine de guerre d'une puissance surhumaine, si Stokowski et Ormandy ont cultivé à Philadelphie un velouté chaleureux, si Boston a un son encore très français, George Sell fait de Cleveland la quintessence du classicisme européen. Dans Haydn, Mozart et Beethoven, il atteint un idéal de clarté et d'élégance qu'il applique de la même façon aux œuvres romantiques de Schumann, au répertoire slave ou à Strauss. Cleveland devient en quelque sorte le plus viennois des orchestres américains. Certains trouvent le style de Sell un peu froid et corseté, insuffisamment lyrique ou généreux, mais cette pudeur excessive s'accompagne d'une telle maîtrise, d'une telle classe, d'une telle exactitude aussi, que ses interprétations ont chaque fois la force de l'évidence, ce que montre son exemplaire discographie. Voilà ce qu'écrivait l'ami Christian Merlin dans son livre « Les grands chefs d'orchestre du XXe siècle ». Christian Merlin, que vous retrouvez chaque dimanche de 9h à 11h sur France Musique dans son émission « Au cœur de l'orchestre ». Thank you. Voilà une surprise qui vient du 5 mai 1967. L'orchestre de Cleveland, dirigé par George Sell, enregistrait la symphonie numéro 94 de Joseph Haydn, la symphonie en sol majeur, dite « La surprise », en raison de ce deuxième mouvement, Andante, qui fait rugir un accord forte au milieu d'une phrase pianissimo. « Mit dem Paukenschlag », dit-on en allemand, avec le coup de timbale, c'est le surnom allemand de cette symphonie « La surprise ». Voilà donc ce qu'on appelle le plus viennois des orchestres américains, l'orchestre de Cleveland. D'ailleurs, c'est à Vienne qu'est née la partition que nous allons entendre maintenant, le troisième concerto pour piano en do mineur, opus 37 de Beethoven. Je vous avais proposé au cours de cette série d'émissions d'écouter un extrait de l'intégrale des cinq concertos de Beethoven que le pianiste Léon Fleischer avait gravé avec l'orchestre de Cleveland au début des années 60. Eh bien, les Clevelanders, sous la direction de Sell, vont faire une nouvelle intégrale Beethoven fin avril, début mai 1968, avec le grand pianiste russe Emil Gilels. l'argot central du troisième concerto pour piano et orchestre en si bémol majeur, l'opus 37 de Beethoven, par Émile Gilels, avec l'orchestre de Cleveland, dirigé par Georges Selle. Et je vous rappelle que vous avez rendez-vous comme chaque jour de la semaine avec Aurélie Moreau à 17h pour le Van Beethoven.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
En cette même année 1968, le 20 octobre, c'est un autre pianiste, le pianiste français Robert Casadesus, qui va retrouver la scène du Severance Hall à Cleveland. Robert Casadesus, nous l'entendions lundi dernier dans le Concertstück de Karl Maria von Weber. Eh bien, le voici, Robert Casadesus, dans un concerto du plus célèbre cousin par alliance de Weber.
Thank you.
C'est Robert Casadesus que nous entendions sur France Musique dans le concerto en si bémol majeur Köchel 450 de Mozart, en tout cas dans son allegro final, avec l'orchestre de Cleveland dirigé par George Sell, qui témoignait une fois de plus de sa vénération pour Mozart. En voici deux autres témoignages, avec un extrait de la 9e sérénade Köchel 320, la sérénade post-horn de Mozart, mais tout d'abord dans un extrait de l'opéra Così fan tutte. Le 28 juillet 1968, l'orchestre proposait à son public un programme Mozart avec la soprano Elisabeth Schwarzkopf, interprétant ici l'air « E amore un ladroncello »,« L'amour est un petit voleur », air de Dorabella dans ce « Così, così fan tutte »,« Elles le font toutes ».
Oh,
Début janvier 1969, Georges Sell dirigeait la sérénade numéro 9 en ré majeur, Köchel 320 de Mozart, la sérénade au corps de postillon, en allemand Posthorn, composée en 1779 et dont nous écoutions le final presto, final dans lequel on entendait parmi ses musiciens de Cleveland le grand oboïste John Mack, embauché par Georges Sell 4 ans auparavant. Eh bien, John Mack allait connaître peut-être son heure de gloire en cette année 69, en dialoguant avec le violon de David Oistrakh dans le concerto en ré majeur de Johannes Brahms, dont voici l'adagio central sur France Musique et francemusique.fr.
Thank you.
voilà un moment de grâce immortalisé le 16 mai 1969 par les techniciens d'EMI. C'était le violoniste David Oistrakh dans le mouvement lent du concerto de Brahms, opus 77, accompagné par l'orchestre de Cleveland, dont le oboïste John Mack, dirigé par George Sell.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Des musiciens en apesanteur, sur un petit nuage, d'autant qu'ils s'étaient déjà réunis quelques jours auparavant pour enregistrer une autre partition de Brahms, toujours avec David Oistrakh. C'était le double concerto opus 102 en la mineur que Brahms avait écrit en 1887 pour violon, violoncelle et orchestre. Il s'agissait au départ d'un concerto écrit pour son ami violoncelliste Robert Hausmann, mais entre-temps Brahms, pour des raisons privées, s'était fâché avec le violoniste Joseph Joachim, le créateur de son opus 77 qu'on vient d'entendre. Alors pour enterrer la hache de guerre, Brahms avait décidé d'écrire un nouveau concerto, non pas pour un, mais pour deux solistes, Hausmann au violoncelle et Joachim au violon. Et en ce mois de mai 1969, au Severance Hall de Cleveland, le chef d'orchestre, c'était George Sell, le violoniste, c'était David Oistrakh, et le violoncelliste, c'était Mstislav Rostropovitch.
Thank you.
Final Vivace non troppo du concerto opus 102 en la mineur pour violon, violoncelle et orchestre, autrement dit le double concerto de Brahms, interprété par une Dream Team, une équipe de rêve, l'orchestre de Cleveland, son directeur musical George Sell, David Oistrakh au violon et Mstislav Rostropovich au violoncelle. C'était en mai 1969. George Sell allait s'éteindre un peu plus d'un an après, le 30 janvier 1970, à l'âge de 73 ans. Mais il aura encore la force de diriger plusieurs concerts en cette année 70, notamment ce concert au Japon, à Tokyo, le 22 mai 1970. L'orchestre de Cleveland proposait au public nippon la deuxième symphonie de Jean Sibelius, mais aussi cette célébrissime partition qui rappelait à George Sell sa ville natale de Budapest. En Hongrie.
Thank you.
C'était la marche hongroise, extraite de la Damnation de Faust de Hector Berlioz, dirigée le 22 mai 1970 à Tokyo par George Sell, qui donnait l'un de ses tout derniers concerts à la tête de l'orchestre de Cleveland. Et ainsi s'achève cette émission, ainsi s'achève cette série sur George Sell, à retrouver sur notre site avec toutes les références, avec toutes les vidéos et tous les sites concernant le chef, notamment le catalogue intégral de ses enregistrements qui a été un précieux document de travail. Et ainsi s'achève cette saison d'Arabesque. Dès lundi, ce sera ce qu'on appelle la grille d'été. Et les Arabesques reviendront à la même heure à partir du 24 août. Très bel été à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.